Une fleur dans un champ d'herbe par Richard Keller. Chapitre 5. Le bocage est sinistre. La grande maison des Léchins n'est que tristesse. L'insouciance et la vitalité de Benjamin font cruellement défaut, et chacun essaie d'y mettre du sien. Le curé parle, il occupe l'espace. Personne n'est dupe, rien n'arrive à adoucir le climat. L'amorosité a aussi gagné le paysage. La zone de bronzage d'Aurélie est triste à pleurer. L'herbe est terne. Et même le vieux Louis reste chez lui. Les enquêteurs ont fouillé tout autour de la ferme. Ils ont recoupé les maigres indices qu'ils possèdent. Tout y est passé. Aucun détail ne semble leur échapper. Pourtant, Benjamin est introuvable. Les déclarations d'Ernestine et de Louis ont relancé les recherches en direction des champs. L'herbe fraîchement coupée n'a pas livré la réponse à la question que chacun se pose. Où est donc Benjamin? Les gendarmes ont examiné les pommiers afin de vérifier si une trace de vêtements ou d'un autre objet n'aurait pas été laissée là comme pour faire un signe. L'évidence est tout autre, rien, pas la moindre fibre. Les chiens sont revenus à la charge, mais 3 jours après la disparition, ils n'ont rien trouvé, la rosée matinale étant l'ennemi des truffes canines. Les animaux ont tourné en rond une bonne partie de la mi-journée. Un appel a été lancé sur les radios nationales, relayé par les ondes locales. Aurélie a accepté de parler. Son message est simple et pathétique. Notre fils, notre vie, Benjamin, nous manque. Je vous en supplie, aidez-le, aidez-nous. Maintenant, les enquêteurs interrogent les parents et l'emploi du temps de Guillaume est passé au peigne fin. Il est parti de la ferme vers 13 heures et passé voir Julien Béchel au village et l'a quitté vers 14h30 pour rejoindre Éric Palu dans les champs à droite des vergers. C'est dans la même direction que le garçonnet a été vu pour la dernière fois. Avec tact et méthode, les gendarmes posent et reposent les questions. Ils essaient de cerner les incohérences. Aucune anomalie dans les déclarations de Guillaume. Il aime trop sa femme et son fils pour leur faire du mal. Aurélie raconte qu'elle se faisait bronzer. Elle ne précise pas qu'elle ne portait pas de maillot. Ce serait malvenu, pense-t-elle. De plus, ce n'est pas un élément de nature à aiguiller les enquêteurs. C'est son opinion. Il est établi que Benjamin Léchin a disparu entre 13 et 17 heures, ce qui laisse un laps de temps important aux ravisseurs s'il s'agit d'un enlèvement. Les Pandores se sont rendus chez Hector. Le vieillard s'est réfugié sur sa chaise devant l'horloge. Ils n'ont pas insisté et sont repartis rapidement. On dirait que le doyen de la famille a vieilli de 20 ans en 3 jours. Il est méconnaissable. Il ne s'est pas rasé depuis la disparition de son arrière-petit-fils. Sa barbe blanche ne peut cacher ses joues creusées et son teint est devenu cireux. Il ne prête plus aucune attention à Aurélie. Il ignore tout le monde, le regard perdu sur les aiguilles de l'antique horloge. Les gendarmes ont interrogé le père et le fils Palu. Ils se sont rendus à leur domicile. Leurs déclarations sont cohérentes. Il n'y a rien qui cloche. Les chiens se sont dirigés vers la nouvelle machine à ensiler, mais sans plus. Benjamin était monté à plusieurs reprises avec Éric, et notamment le matin de sa disparition. Les deux hommes n'ont pas vu l'enfant l'après-midi. Joseph Palu n'est venu sur les champs qu'à partir de 15 heures. Il a fait la sieste à son domicile. Il a plusieurs témoins, dont son épouse. Éric est parti de chez lui aux environs de 13 heures. Il a été rejoint un peu plus tard par Guillaume. La machine a ensilé et resté sur le champ. Les gendarmes notent une contradiction avec les déclarations de Louis le Boiteux, ce dernier prétendant qu'il avait entendu le bruit de la botteleuse. Voilà un point qu'il faudra éclaircir, se disent-ils. Le jeune Éric Palu, toujours célibataire, confie aux enquêteurs qu'il a fréquenté Aurélie et qu'il aurait voulu qu'ils se marient, mais elle en a décidé autrement. Il confirme aussi qu'il aime beaucoup Benjamin et que s'il peut faire quelque chose pour aider à le retrouver, il est prêt à participer aux recherches. Après avoir interrogé Madame Palu, l'épouse de Joseph et mère d'Éric, les enquêteurs retournent rendre visite à Louis le Boiteux. L'homme semble surpris de voir arriver à nouveau la maréchaussée dans sa cour. Après quelques questions banales, il l'interroge une nouvelle fois sur ce qu'il prétend avoir vu aux environs de 13 heures, le jour de la disparition de Benjamin. Il n'est plus aussi affirmatif. Il lui semble que il se pourrait qu'il se soit trompé. Il se demande s'il doit dire qu'il a vu la belle Aurélie au même moment derrière la haie, mais décide de continuer à cacher cette vérité. Le voyeur a peur. Il a peur de déclencher un autre séisme dans le village. Les gendarmes pensent que le vieil homme a perdu toute notion d'exactitude. La version d'Éric Palu est la plus plausible. Cependant, le vieux Louis a bien vu Benjamin comme l'a vu Ernestine, la grenouille de bénitier. Après le départ des enquêteurs, le vieil ouvrier agricole réfléchit, tremblant comme s'il avait forcé sur le calvat. Il se demande s'il ne va pas aller voir Aurélie et lui avouer qu'il l'a vue et qu'il n'a rien dit. Peut-être acceptera-t-elle de leur parler. Ainsi, il pourrait avouer. Il se ravise. Ce n'est pas une bonne idée. Je n'ai rien vu. Un point, c'est tout. Éric et Joseph Palu repartent sereins. Le fauchage et l'ensilage battent leur plein. Il faut profiter du soleil pour avancer au maximum. Le père envisage de laisser l'entreprise à son fils unique d'ici un an ou deux. Éric est dégourdi et il l'aidera de temps à autre. Les deux hommes s'entendent bien. Jamais un accrochage. Ils sont toujours d'accord. Le père a autant souffert que le fils lors de la rupture avec Aurélie. Et puis, le temps a passé. Joseph aimerait bien le voir lui amener une jeune femme afin de perpétuer la lignée. Une équipe de télévision s'est emparée de l'affaire. Après la radio et la presse écrite, le petit écran prend le relais. Un appel est lancé aux heures de grande écoute. Les présentateurs des chaînes publiques et privées consacrent un peu de temps à Benjamin. La photo de l'enfant a envahi les foyers. Aurélie renouvelle, tout en sobriété, l'appel lancé à la radio. Le numéro de téléphone de la gendarmerie de Lianceville est donné sur les ondes, ce qui entraîne une cascade d'appels. L'enfant a été vu aux quatre coins de l'Hexagone. Il y a même des appels de Belgique, d'autres prétendent l'avoir croisé en Angleterre. Le travail de la gendarmerie est fastidieux. Il faut traiter tous les appels, faire un tri sommaire et intervenir. De nombreux suspects sont interrogés dans plusieurs régions. Dans les environs de Lianceville, des marginaux sont interpellés et placés en garde à vue. Tout cela en vain. Le petit s'est volatilisé. Les gendarmes enquêtent autour de la vie du couple Léchin. Les villageois sont sollicités afin de cerner au plus près le quotidien d'Aurélie et Guillaume. Bien entendu, il y a deux ou trois notes discordantes dans un concert d'éloges. Guillaume est dépeint comme un garçon travailleur, dur à la tâche, introverti, amoureux fou de sa femme et adorant son fils. Tous s'accordent à dire que l'intelligence ne lui manque pas. Julien Béchel, son meilleur ami et confident, rajoute que le métier de fermier n'était pas une vocation de jeunesse pour Guillaume. Il souhaitait se diriger vers des études vétérinaires. Son père en fut malade lorsqu'il lui fit part de son intention de rejoindre l'école vétérinaire de Nantes. 15 jours plus tard, le sort en était jeté. Guillaume rejoignait une filière agricole et finissait ses études avec un brevet de technicien supérieur en poche. Le père était heureux de savoir que son fils unique prendrait sa succession. Il en est souvent ainsi dans les campagnes. Les avis concernant Aurélie sont plus abrupts. On aime ou on déteste. Ce sont surtout les femmes qui sont les plus dures. Il semble que la distance prise par Aurélie au début de son mariage ne soit pas passée auprès de certaines. Il faut dire qu'elle est originaire d'un village voisin. Les enquêteurs n'ont rien noté de significatif concernant la jeune femme. Un seul point attire l'attention des gendarmes, son flirt avec Éric Palu. Mais ce dernier s'est expliqué samedi matin en recoupant les déclarations de l'une et de l'autre. Il n'y a rien qui puisse laisser supposer qu'ils se voient encore ou qu'ils soient amants. Les gendarmes viennent de s'apercevoir qu'un événement important s'est produit le dimanche précédant la disparition de l'enfant. Un pèlerinage exceptionnel s'est déroulé dans le canton de Lianceville. Cette manifestation se déroule tous les 5 ans. Les chemins empruntés par les pèlerins passent par la propriété de la famille Léchin. Une halte avec prière a lieu au calvaire qui domine la falaise. L'évêché contacté donne quelques renseignements avec les coordonnées des organisateurs. Les autorités ecclésiastiques servant simplement de caution morale pour ce rassemblement. C'est surtout par conscience professionnelle que les enquêteurs veulent explorer cette voie. Ils ne pensent pas qu'un pèlerin ait pu cheminer sur le parcours, prenant ses repères pour une mauvaise action 2 jours plus tard. Il n'y a pas de dimanche pour les gendarmes. Ce matin, ils auditionnent M. Lazare Fourniol, organisateur du pèlerinage du Bocage. Cadre de préfecture à la retraite, l'homme est rompu à l'organisation. À la demande des enquêteurs, il fournit la liste des participants inscrits à cette manifestation. L'enquête s'avère difficile. Il y a eu 411 inscrits. M. Fourniol rajoute qu'il ne s'agit que des pèlerins officiels. D'autres se sont joints tout au long du parcours. Certains ont omis de s'inscrire ou n'ont effectué qu'une partie du parcours. Il sollicite son concours. Chaque nom est commenté. Quelques-uns sont notés en fonction d'un détail ou d'un profil particulier. Les familles sont écartées pour l'instant. Seuls les hommes font l'objet d'une attention particulière. Ce qui chagrine les enquêteurs, c'est le nombre de personnes s'étant trouvées dans les environs de la ferme le dimanche précédant la disparition. Lazare Fourniol a pu donner d'autres noms de pèlerins non inscrits et dont il se souvient d'avoir cheminé un peu avec eux. À l'issue du listage, une 60aine de noms sont retenus. Il va maintenant falloir retrouver ces personnes et les entendre. Les gendarmes ont décidé de faire vite. 2 équipes sont chargées d'investiguer et de ramener les témoignages. Un premier point sera fait ce soir. M. Fourniol, très coopératif, a vite compris l'importance des informations dans ce type de situation. L'absence d'un enfant est un événement extrêmement douloureux. Un catholique fervent ne saurait entraver le déroulement de l'enquête. Il se doit d'aider à la recherche de l'enfant. Il est un peu plus de 10 heures lorsque le curé Brécourt entame son homélie dans une église bien remplie. Les villageois ont décidé de faire corps autour du maire et du curé pour soutenir Aurélie et Guillaume. Les vieilles querelles entre les laïcs et les religieux sont mises de côté. Benjamin avant tout. C'est son sort qui importe. Ce n'est pas seulement le fils Léchin, c'est l'enfant du village. Justin Brécourt fustige davantage les fidèles pour inciter chacun à se rappeler du moindre élément pouvant aider à retrouver le jeune garçon. Il assène ses propos, tel un boxeur sur un ring. On dirait l'énergie du désespoir. Le curé cogne sur un ennemi invisible, le ravisseur probable. Et un autre ennemi encore plus sournois, le temps. Toutes les prières vont en direction de l'enfant innocent. Le temps s'est apaisé. Des paroissiennes pleurent, les têtes se rentrent dans les épaules, les psaumes sont saccadés, empreints de sincérité. Un appel à la raison est prononcé en direction du ravisseur. puisse-t-il entendre les cœurs des paroissiens, l'âme des villageois qui pleurent et déchirent les consciences. Chacun, dans la solitude de la prière, trouve refuge. Sans s'en rendre compte, chacun procède à son examen par rapport à Benjamin.